Europe Soir,
le 18-20.
Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Avec ce soir, un témoignage rare à 18h20, celui d'un soldat de l'ombre. Il a été commando de marine dans les forces spéciales pendant 10 ans. Il se raconte aujourd'hui dans un livre très fort intitulé « Chef de guerre, la fraternité d'armes, les coulisses des opérations secrètes, la face cachée de la lutte contre le terrorisme ». Il sera avec nous pour une interview vérité dans quelques secondes. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Faut-il interdire le contrôle d'identité comme le réclame la défenseure des droits? On en parlera. 19h15, la carte blanche de Philippe Besson et puis 19h20, le grand débat comme chaque soir. Ce soir, on s'intéressera à la réalité de la mouvance ultra-droite. Qui sont ces groupuscules qui infiltrent les mouvements sociaux et multiplient les coups de force? Représentent-ils une menace pour la République? On en parlera avec nos invités et notamment le spécialiste Jean-Yves Camus. Le journal d'abord. Avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
La crise sanitaire et ce paradoxe, les variants progressent, pourtant les chiffres de contamination et d'hospitalisation baissent.
Et si finalement les variants étaient un peu moins contagieux qu'on ne le redoutait.
Des variants qui, vous le savez, sont particulièrement présents en ce moment en Moselle et dans la région de Dunkerque.
Le maire de Dunkerque, justement, regrette que les autorités n'écoutent pas les élus de terrain, lui qui réclamait des mesures très strictes.
Pour le coup, l'Allemagne, elle, ne tergiverse pas. Elle impose des contrôles ultra stricts à ses frontières avec deux de ses voisins. La France pourrait être la prochaine sur la liste.
À partir du 1er juillet, le diagnostic performance énergétique va évoluer et il sera possible après coup de réclamer une compensation aux propriétaires. Objectif, lutter contre les passoires thermiques.
Des policiers ciblés par des tirs de mortiers d'artifice à Poissy dans les Yvelines. La scène a été filmée par les agresseurs que l'on entend très clairement appeler au meurtre.
Et puis Barça-PSG demain, 8e de finale de Ligue des Champions. Barcelone, une ville que connaît très bien le nouvel entraîneur parisien.
La bourse a terminé ce soir en hausse plus 1,45% à 5786 points.
La météo, Anissa Haddadi, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Enfin une bonne nouvelle, le redoux se confirme.
Oui, on l'a senti déjà un petit peu aujourd'hui, il fait bien plus doux que la semaine dernière. Et bien demain, les températures dépasseront les 20 degrés dans le sud-ouest. Dans le ciel, le temps s'annonce assez calme, avec un risque d'averse et une petite perturbation qui va toucher le nord-ouest. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc l'énigme épidémique. Les variants progressent, mais les courbes baissent.
Bonsoir Victor Delande. Alors quand on regarde de près les chiffres, c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre comment les variants peuvent proliférer, comme en Moselle ou à Dunkerque, alors que dans le même temps, l'épidémie au niveau national, elle, régresse.
Oui, il y a actuellement 18 000 cas en moyenne par jour. C'est 9% de moins en une semaine. Le taux d'incidence aussi a baissé, passant de 215 cas pour 100 000 habitants il y a à peine 10 jours à 193. Les hospitalisations ont également chuté de 10% en une semaine. Même le taux de reproduction, le fameux R, vous savez, qui indique combien de personnes contaminent en moyenne chaque porteur du virus, il est retombé sous la barre du 1, donc l'épidémie recule bel et bien. Et pourtant, les variants anglais, sud-africains et brésiliens continuent de progresser et d'inquiéter les autorités locales, vous l'avez dit, en Moselle, dans les Vosges, en Bretagne ou dans les Hauts-de-France. Des variants qui représentent jusqu'à 35-40% des contaminations dans certains territoires et qui devraient donc faire bondir les contaminations puisque ces variants sont plus contagieux. Or, ce n'est pas le cas. Une des hypothèses avancées, c'est que le variant britannique serait moins contagieux que prévu, comme l'explique Mircea Sofonea, maître de conférence en épidémiologie à l'Université de Montpellier.
La surcontagiosité pourrait ne pas être aussi importante que celle estimée en Grande-Bretagne. Ça, c'est tout à fait possible. Au lieu d'avoir une augmentation de plus 70%, comme c'était le cas pour certaines projections et certaines estimations, il pourrait être de plus 30% ou plus 20%. Et dans ce cas-là, effectivement, la contribution, même quand elle est de 50%, n'affecte pas énormément.
La Direction générale de la Santé a tout de même envoyé une circulaire en fin de semaine dernière à toutes les agences régionales de santé du pays pour qu'une organisation de crise soit mise en œuvre dans chaque région. Tout le monde doit se tenir prêt dans les hôpitaux au cas où les variants feraient bondir les cas. Donc même si ce n'est pas le cas pour le moment, ce n'est pas impossible. Et pour coller au mieux à la situation épidémique dans chaque région, les spécialistes de santé publique appellent le gouvernement à prendre des décisions beaucoup plus locales.
Bien, merci Victor Delande pour cette explication complète du service Société d'Europe 1.
Alors justement, vous venez de parler de mesures au niveau plus local. On évoquait le cas de Dunkerque où la circulation du variant britannique accélère. Il est désormais présent dans 80% des cas positifs.
Oui, de nouvelles mesures de protection ont été mises en place effectivement dans les établissements scolaires avec notamment des arrivées et des départs échelonnés avec des horaires décalés.
Mais la préfecture a refusé la demande du maire de fermer complètement les établissements. Ce dernier dénonce des mesures déconnectées.
Nous avions demandé la fermeture des collèges et des lycées et la possibilité pour les parents d'enfants à l'école primaire de ne pas mettre leur enfant aujourd'hui, ce qui aurait permis d'alléger les classes considérablement. Nous avons eu d'autres réponses. Effectivement, des systèmes hybrides dans les collèges et les lycées, mais on continue à avoir des regroupements. Des horaires décalé au niveau de l'école primaire, mais c'est pas là qu'est le problème. Et puis des mesures type port du masque obligatoire. Regardez dehors, regardez l'espace public ici à Dunkerque. Je pense qu'on arrive à avoir une personne au kilomètre carré. C'est absolument pas des mesures adaptées. Je regrette qu'on n'écoute pas les élus de terrain qui proposent des solutions. Nous sommes des alliés dans la crise sanitaire et non des adversaires. Et je regrette cette absence de confiance. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu. La Moselle, c'est pas Dunkerque, c'est pas Agen, c'est pas Marseille aujourd'hui. Quand il y a des situations locales différentes, il faudrait que l'État ait cette intelligence, cette capacité à comprendre qu'il faut des politiques publiques différenciées suivant les territoires.
Voilà le maire d'hiver gauche de Dunkerque, Patrice Vergrit, au micro européen de Maximilien Carlier.
La Moselle, elle, est sur le pied de guerre, non pas contre le variant britannique, mais contre le variant sud-africain.
Et dans ce département, là aussi, les écoles restent ouvertes, alors que là aussi, les élus avaient réclamé des mesures plus sévères, mais le département va quand même recevoir 30 000 doses de vaccins supplémentaires.
Alors nos voisins allemands, eux, ont décidé, pour contrer la propagation des mutants, justement, de contrôler systématiquement certaines de leurs frontières.
Oui, c'est le cas avec la République tchèque ou avec la région du Tyrol en Autriche, où sans test PCR, on ne passe pas. Et cette question, forcément, on vous la pose, Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante d'Europe 1 à Berlin. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Les Allemands vont-ils prendre des mesures similaires avec la France au vu de ce qu'il se passe en Moselle ?
Écoutez, la réponse en théorie, c'est oui. L'Institut Robert Koch, qui fait la veille sanitaire de l'épidémie ici, publie chaque semaine une liste de territoires à risque. Alors la France est déjà sur cette liste. Hein. Les voyageurs doivent se mettre en quarantaine en arrivant en Allemagne et se faire dépister. La vraie différence, c'est effectivement quand un pays ou une région devient territoire à haut risque, c'est-à-dire un territoire avec des cas de virus mutants en nombre important. Et bien là, c'est simple. Hein. On ne passe plus la frontière sans test PCR négatif, d'où la situation très tendue depuis hier à la frontière germano-tchèque, par exemple. 2-3 heures d'embouteillage, la police allemande vérifie tous les véhicules. Elle laisse passer quand même les transporteurs routiers, le personnel soignant, les familles divorcées qui vont chercher les enfants de part et d'autre de la frontière. Mais les travailleurs frontaliers, par exemple, pour l'instant, ils n'ont pas de statut d'exception. Ils doivent avoir un PCR négatif ou justifier qu'ils travaillent dans un secteur essentiel comme l'alimentation ou le secteur de l'énergie. Sinon, ils sont refoulés. Et voilà ce que veulent à tout prix éviter les élus locaux en Moselle et en Sarre. Maintenant, ça serait un coup terrible pour l'économie et pour la vie tout court de la région. Mais à 7 mois des élections ici en Allemagne, ils savent qu'il y a des pressions politiques et des vraies raisons sanitaires pour remettre ces contrôles. Hein. Le long de la frontière, actuellement, si vous allez du côté allemand, il y a 4 fois moins de cas qu'en France. La vraie question, c'est donc, quand il y aura ces contrôles, qui aura sa place sur la liste des exceptions? Les discussions sont déjà engagées entre la France et l'Allemagne pour qu'elle soit le plus large possible, cette liste d'exceptions.
Eh bien, merci Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en direct de Berlin. Chez nos voisins britanniques, cette fois, plus de 15 millions de personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin.
Et le Premier ministre Boris Johnson dit vouloir un déconfinement irréversible mais prudent.
Alors que le nombre de contaminations outre-Manche, comme le nombre d'hospitalisations, est en baisse.
Notez que la justice a suspendu cet après-midi la réouverture de 4 musées à Perpignan. Réouverture qui avait été autorisée par le maire, Rassemblement National, Louis Alliot. Ce dernier va donc contester cette décision. 18h07, un Français sur 6 vit dans un logement mal isolé. Les choses devraient enfin changer. Le gouvernement veut déclarer la guerre aux passoires thermiques.
Oui, avec la mise en place à partir du 1er juillet d'un nouveau diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, qui a été présenté aujourd'hui. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Et qui devrait être plus simple et plus efficace.
Hein. Oui, il y aura 2 nouvelles rubriques sur ce diagnostic. D'abord, vous verrez noir sur blanc combien de kilos de CO2 émet votre logement par mètre carré et par an, avec une classification de A à G. La seconde, c'est une fourchette de prix de votre future facture d'énergie qui se veut plus fiable puisqu'on ne prend plus en compte les factures de l'ancien occupant. Le professionnel réalise un vrai diagnostic en tenant compte des matériaux. Et la grande nouveauté, c'est que ce DPE devient opposable. C'est-à-dire que si vous avez des factures plus lourdes que prévues, vous pourrez demander un nouveau diagnostic et vous retourner contre le propriétaire. Stéphane Prouzeau, vice-président de la FIDI, la Fédération du diagnostic immobilier, nous l'explique par un exemple, quand toutes les pièces d'une maison ne sont pas isolées.
C'est-à-dire que l'isolation a été réalisée sur une partie des murs, mais pas sur l'ensemble, soit de la pièce, soit du bien immobilier. Et donc vous pouvez avoir une isolation uniquement par exemple dans les chambres, mais pas dans la pièce principale. Ça se rencontre, hein, on ne va pas dire souvent, mais régulièrement. Et donc, dans ces cas-là, le tribunal dédommage le propriétaire par une indemnité égale à l'isolation par l'intérieur de la pièce principale.
Et autrement dit, il vous rembourse la somme exacte qui vous permettra de faire les travaux d'isolation manquants. Ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros et ce nouveau diagnostic de performance énergétique sera donc obligatoire pour tous les logements à partir du 1er juillet.
Merci beaucoup Virginie Salmen du service Société d'Europe 1.
Une prime pour quitter le nid. L'État propose un coup de pouce aux moins de 25 ans qui débutent leur vie professionnelle.
À condition qu'ils aient un CDI, un CDD, une mission d'intérim ou même un contrat d'apprentissage et un salaire net de moins de 1400 euros par mois. Dans ces conditions, ils pourront toucher donc 1000 euros et cette aide entrera en vigueur dès jeudi. Face au boom de la livraison à domicile et au gâchis constaté, emballage en plastique à gogo, 19 acteurs de la livraison à domicile ont signé une charte aujourd'hui avec le ministère de la Transition écologique. Ils s'engagent à réduire ces emballages. Dès le 1er mars, par exemple, fini les couverts, vous utiliserez les vôtres ou bien les sauces individuelles. Progressivement seront également mis en place des emballages en verre recyclables et pourquoi pas consignés.
Des policiers à présent pris pour cible à deux reprises le week-end dernier en banlieue parisienne.
À Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise et à Poissy dans les Yvelines. C'était samedi, en fin d'après-midi. Des mortiers d'artifice ont été tirés dans le cas de Poissy. Agression odieuse, a dit Gérald Darmanin qui condamne sans réserve des violences inacceptables et des appels au meurtre. Gladys Laffitte, tout est parti d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
Oui, une vidéo tournée par les agresseurs, relayée par le syndicat indépendant des commissaires de police. Elle dure 20 secondes. On y voit des personnes habillées en noir, de la fumée, et ce sont surtout ce qu'elles disent que l'on entend. Et puis ces bruits sourds, des tirs de ce que l'on appelle des mortiers d'artifice, des engins pyrotechniques, mais détournés par des groupes de jeunes dans de nombreuses villes de France et utilisés contre les forces de l'ordre. Des agressions très fréquentes, explique François Bersani, secrétaire départemental des Yvelines du syndicat Unité SGP Police.
Il faut savoir que jusqu'à il y a 2-3 ans, c'était des ustensiles qui étaient utilisés principalement pour le 13-14 juillet à l'égard des forces de police. C'est un feu d'artifice, sauf qu'il est tiré à tir tendu, hein, par les personnes qui attaquent la police. Ça peut mutiler, blesser les personnes qui sont touchées par ce tir des mortiers puisque ça brûle, c'est explosif.
Aucun des 4 policiers pris à partie n'ont été blessés à Poissy. Ils ont dû faire usage de leur LBD et à l'arrivée des renforts, la trentaine de personnes s'étaient éparpillées. Aucune n'a été interpellée.
Explication Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Le parquet général fait appel de la condamnation de la mère et du beau-père du petit Tony à Reims. Tous deux avaient été condamnés à 4 et 20 ans de prison. L'avenir de l'opération Barkhane au menu du sommet du G5 au Sahel. 5 pays et la France font le point sur la lutte anti-djihadisme. On entendra l'éclairage de Didier François dans le journal de 19h.
Et on en parlera avec notre invité dans quelques secondes. Témoignage très fort d'un ancien commando marine des forces spéciales. En ski, il s'en est fallu de peu pour Alexis Peintureau. Il est passé tout près de l'or.
Oui, 4 centièmes, imaginez, 4 centièmes qui l'empêchent de remporter un deuxième titre mondial consécutif en combiné alpin. On y reviendra tout à l'heure avec Corinne Boulou.
Le foot à présent et ce rendez-vous crucial évidemment demain pour les Parisiens. 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Barça.
Bonsoir Henri Delaguéry.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Espagne. Henri, demain soir, côté parisien, ce sera sans Neymar et sans Di Maria. Mais bien sûr, avec le nouveau coach Mauricio Pochettino qui entretient, paraît-il, un rapport très particulier avec Barcelone.
Eh bien oui, car il a fait une longue partie de sa carrière comme joueur et comme entraîneur dans l'autre équipe de la ville, l'Espagnol de Barcelone, l'ennemi juré des Blaugrana. Et c'était son premier club en Europe, il y joue 7 ans avant de signer à Paris et il revient ici en 2009 comme entraîneur. Il sauve le club de la relégation cette saison-là, il remporte le derby au Camp Nou, il devient une icône, comme l'explique Roman Martinez, spécialiste de l'Espagnol pour le journal catalan El Nou.
Ah, les souvenirs que Pochettino a laissés chez les supporters de l'Espagnol sont magnifiques. Hein. On parle d'une légende du club. Hein. Il a une porte dans le stade avec son nom. Il a remporté 2 titres du Coupe du Roi dans les années 2000 et 2006. Ici, les supporters de l'Espagnol auront sans aucun doute un vrai plaisir de voir une victoire du Paris Saint-Germain. En plus, Pochettino aura également une motivation émotionnelle très forte pour battre le Barça, un club qui a été toujours son ennemi.
Voilà, et pour preuve, lorsque des rumeurs l'annonçaient sur le banc du FC Barcelone il y a 3 ans, Pochettino avait eu cette réponse : « Je préfère retourner dans ma ferme en Argentine plutôt que d'entraîner le Barça ».
Merci beaucoup Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Ce match, vous pourrez le vivre en direct, en intégralité, demain sur Europe 1. Grande soirée foot dès 20h.
Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30. Les températures qui continuent leur hausse. À vous Anissa, on voit ça parce que c'est vrai qu'on attend un redoux assez conséquent d'ici à la fin de semaine.
Très net, oui, effectivement. Demain, nous aurons plus de 20 degrés dans le sud-ouest, hein, Julien. 22 à Tarbes, 21 à Saint-Giron, 20 degrés à Mont-de-Marsan, 18 degrés à Brive et Clermont-Ferrand, 16 à Toulouse, 15 degrés à Nice et Nevers, 13 degrés pour Bastia et Quimper, les opposés, 12 degrés à Paris et à Lyon, 11 à Cherbourg et 9, c'est la minimale demain après-midi, du côté de Dunkerque. Alors en début de journée, on en a bel et bien fini avec les gelées matinales dans le Grand Est. Ça y est, nous n'aurons que des valeurs positives entre 0 et 11 degrés. Et dans le ciel, attention demain matin au brouillard en Occitanie, dans le Val-de-Saône, dans les Cévennes et en Corse. Pas mal de nuages bas, mais après la dissipation, le ciel sera quand même assez dégagé et assez lumineux sur les trois quarts du pays. En fait, nous avons une petite perturbation qui va arriver demain par le nord-ouest. Oui. Ça va concerner la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, avec des nuages, quelques averses et surtout le vent de sud qui souffle sur les côtes de la Manche et le littoral atlantique. Et puis au bord de la Méditerranée, ce sont des entrées maritimes qui là viendront un petit peu voiler le soleil et puis surtout apporter un petit peu d'humidité dans le sud. Le vent du sud, il souffle aussi beaucoup dans la vallée du Rhône. Il va s'engouffrer dans le couloir de la vallée lyonnaise et il va souffler jusqu'à 70 km/h.
Bon, arrêtez de casser l'ambiance. Moi, ce que je retiens, c'est les températures en hausse entre 9 et 23
degrés. Est-ce que vous voulez une très bonne
nouvelle ? C'est assez phénoménal, ça, quand même, par rapport aux températures négatives qu'on a eues la semaine dernière. Bonne nouvelle,
Anissa. Très bonne nouvelle pour finir. Je m'y engage devant témoin ce week-end. Le printemps aura un mois d'avance.
Bien. Rendez-vous est pris. Merci, à tout à l'heure, Anissa.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous 18h15 dans quelques secondes. Le témoignage d'un soldat de l'ombre. Il a été chef de groupe dans les forces spéciales et publie ses récits de guerre. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h18, il va nous plonger au cœur des opérations spéciales des commandos de marine et notamment de ce qui joue en ce moment évidemment au Mali et dans la bande Sahel, c'est l'opération Barkhane. Bonsoir Louis Saillant.
Bonsoir monsieur.
Merci d'être avec nous, vous avez 34 ans, vous avez passé 10 ans dans les commandos marines, les forces spéciales en somme, que vous quitterez en juillet prochain. Et vous publiez ce récit absolument fascinant sur vos opérations secrètes, les opérations secrètes de la France. Ça s'appelle Chef de guerre, au cœur des opérations spéciales avec un commando marine aux éditions Mareuil. Est-ce que c'est votre nom, Louis Saillant, ou c'est un pseudonyme ?
Non, c'est un nom d'emprunt que j'ai utilisé pour protéger ma famille, protéger mes proches, afin de ne pas les compromettre. Donc je peux montrer mon visage, mais je préfère prendre ces précautions-là.
Alors, précisons pour l'anecdote, ça n'est pas un nom totalement choisi au hasard, car ça vient du comte François-Louis de Saillant, qui a été le premier, je crois, à avoir mené des opérations commando.
Exactement, vous avez bien renseigné. Le château de Cracovie, qui était tenu par Catherine II, s'est vu déserter de ses 600 soldats russes à la venue de 100 soldats français qui sont montés par les égouts.
Bien, voilà pour l'anecdote. Alors, vous êtes l'un de ces soldats de l'ombre, comme l'on dit un peu communément, et vous racontez à travers ce livre beaucoup de vos missions secrètes, que vos familles d'ailleurs ignorent, en ignorent le détail, en tout cas précis. Vous êtes en quelque sorte l'élite de l'armée opérationnelle. Les unités des forces spéciales, ça rassemble 2000 opérationnels et environ 400 soldats commandos marines. Alors dans le livre, vous racontez aussi vos doutes d'une certaine manière. Je voudrais qu'on commence par ça, car c'est assez surprenant dans la bouche et dans la plume d'un militaire. Vous dites, quand on capture un djihadiste, j'ai vu sa famille, je vois le gamin que l'on laisse sur place, et lui, que devient-il, écrivez-vous. En somme, vous dites qu'il manque quelque chose à ce combat, on ne peut pas gagner la guerre si on ne gagne pas les cœurs. C'est très intéressant ça.
Oui, c'est vrai, c'est surtout quelque chose qu'on a beaucoup éprouvé dans notre histoire récente. Quand on pense à l'Algérie, à l'Indochine, c'est des combats de guérilla, comme on peut connaître aujourd'hui, alors avec des technologies différentes, mais le principe est le même. Et on retrouve ça aussi en Afghanistan, où on a essayé de gagner les cœurs par des méthodes plus ou moins fructueuses. Bon, les leçons sont à tirer de l'histoire.
Est-ce que vous avez le sentiment, parce que c'est un peu le sujet du jour aujourd'hui, avec ce G5 Sahel, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de rater notre cible dans la guerre qu'on mène contre les djihadistes dans la bande Sahel et principalement au Mali ?
C'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'elle est très délicate. Mmh. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments. Néanmoins, moi, il y a une question, quand on me pose cette question, qui me vient à l'esprit, qui est de savoir pourquoi on ne gagne pas. Aujourd'hui, on me pose souvent la question de savoir s'il faut rester, s'il faut partir. Bon, moi, je ne suis pas chef d'état-major des armées, je ne peux pas m'engager sur ces questions-là. Néanmoins, je trouve ça intéressant de voir que personne ne se demande mais pourquoi est-ce qu'on a, on ne gagne pas du terrain, la menace réduit. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça?
Et votre réponse, quelle est-elle? Vous avez été sur le terrain, vous avez mené un certain nombre d'opérations secrètes, certaines que vous révélez. Quel est votre sentiment?
Alors, moi je constate déjà, sur le terrain, je constate qu'on fait bien le travail. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème militaire à mes yeux. C'est-à-dire que quand on va sur le terrain, on fait très attention, on est très précautionneux quand on montre notre force.
Mais il y a un nouvel élément quand même, c'est qu'il y a un sentiment anti-français qui commence à monter, notamment au Mali, ce qui n'était évidemment pas le cas lors de l'opération Serval, quand on a libéré le Mali. D'ailleurs,
absolument,
ça s'est fait en quelques jours, grâce aux forces spéciales notamment, et aux colonnes de l'armée française.
Ça n'était pas
le cas. On se souvient de François Hollande qui avait été accueilli comme
un héros.
Il y avait
des panneaux François Hollande à l'entrée de Tombouctou, effectivement.
Pourquoi aujourd'hui on a perdu cette bataille-là?
Je pense qu'il y a une usure dans les esprits. Donc les gens, au début, ont vu des libérateurs militaires arriver. Et maintenant, les libérateurs militaires, c'est devenu des gens qui restent.
Oui.
Des gens qui restent là, mais qui restent que des militaires. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se développe de plus que les infrastructures militaires. Alors, on a de bonnes relations localement avec les populations. Ça se passe très bien, je peux en témoigner. Néanmoins, derrière, qu'est-ce qui est fait pour qu'on soit plus qu'une simple force d'occupation?
Alors,
c'est comme ça qu'il nous
va. Vous racontez un épisode sur ce cas de conscience que vous avez parfois assez marquant, page 123, dans un combat ultra rapproché avec des djihadistes. Vous en blessez un, vous le soignez, et il survit, et il devient donc votre prisonnier. Et un de vos camarades vous dit alors, on aurait dû lui mettre une balle dans la tête. Et vous lui répondez, si c'est du tac au tac, bravo pour la répartie, vous lui répondez, c'est cette compassion qui fait la noblesse de notre armée. C'est une conviction que vous avez.
C'est tout à fait une conviction que j'ai. Et je comprends mes hommes, je comprends ceux d'entre eux qui se sont dit c'est pas le moment, on va le laisser, il faut qu'on passe à autre chose. Et c'est normal. Quand on s'est fait engager à courte distance, il faut se mettre dans les bottes des bonhommes. C'est-à-dire que vous avez peur pour votre vie. Vous risquez d'y passer d'un instant à l'autre. C'est d'une intensité qui est très difficilement descriptible. J'essaie de le décrire dans le livre, mais c'est très dur.
Oui.
Donc il faut se mettre à leur place et se dire, vous allez mourir, parfois c'est lui ou vous. Donc à ce moment-là, moi je comprends les gars qui disent, on va le laisser là et tant pis pour lui.
Vous étiez chef de groupe.
J'étais chef de groupe à ce moment-là.
Quand on est chef de groupe, on dirige combien de...
On dirige une quinzaine de bonhommes.
Une quinzaine de soldats, et vous partez en opération avec eux, pour des missions secrètes.
C'est ça.
Le paradoxe par rapport à cette prise de conscience, c'est qu'il y a quand même un tabou quand on est un combattant de l'ombre comme vous êtes, c'est que parfois on part aussi pour tuer. On ne part pas pour capturer, on part pour tuer, pour taper une cible.
Alors je suis obligé de réagir un petit peu parce que pour le coup, on partira toujours sur la capture ou la neutralisation. Donc on va capturer ou tuer, voilà. Donc à chaque fois, même si l'ennemi est extrêmement dangereux, qu'on le sait, on lui offrira toujours cette possibilité de se dire, au dernier moment, s'il change d'avis, il aura la vie sauve, on lui laissera la vie sauve.
Oui.
En revanche, s'il prend les armes, il scelle son sort lui-même.
Vous avez servi en Afghanistan?
Non.
Non?
Non, non, non.
Vous avez servi en...
Sahel, Moyen-Orient.
Est-ce que vous avez servi en Syrie?
Je ne peux pas répondre dans le détail à ces questions, je suis désolé, j'ai un devoir de réserve.
Oui, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, l'intervention des forces spéciales en Syrie... auprès des combattants, notamment kurdes, dont on a beaucoup parlé aussi au moment de l'offensive turque, mais je comprends votre réserve sur ce point. Avec parfois des pertes lourdes côté français, c'est d'ailleurs le début de votre livre. Vous revenez sur la mort des deux commandos marines, Cédric de Pierrepont et Alain Berton Cello, tués au Burkina lors de la libération d'otages. C'était le 10 mai 2019. Qu'avez-vous ressenti, vous, quand vous avez appris leur disparition?
C'est une très grande peine. Je connaissais les deux personnages. Alain avait servi dans mon groupe et c'est des gens d'une très grande qualité déjà. Donc humainement, c'est difficile de perdre des collègues qui sont aussi grands. Et deuxièmement, c'est toujours, même si on ne les connaît pas personnellement, c'est toujours difficile de voir la perte d'un collègue militaire qui est un frère d'armes. Quelle que soit son armée, quelle que soit son unité, ça reste un frère d'armes. C'est toujours une blessure pour nous.
Est-ce que vous savez comment votre démarche a été jugée au sein des armées? J'imagine que votre livre a dû être partiellement relu, revu. C'est vrai que dans les forces spéciales, la tradition n'est pas trop aux introspections publiques.
Non, mais mes chefs, alors c'est vrai que j'ai emprunté des chemins qui ne sont pas habituels. Donc ça a pu froisser quelques personnes. Néanmoins, mes chefs ont su être très bienveillants à mon égard et je les remercie. Maintenant, ce bouquin n'engage que moi et c'est vraiment mon œuvre. Donc ça ne dit en rien de comment dire. Ce n'est pas l'expression d'une volonté militaire, politique ou quoi que ce soit.
Vous parlez aussi de votre engagement personnel. Vous dites par exemple, j'ai été chef de guerre sur le champ de bataille, je serai désormais combattant au sein de la société civile. Ça veut dire quoi être combattant au sein de la société civile?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rechercher un petit peu la vérité dans tout ce qui m'entoure. Alors, c'est un grand mot pour le réduire un petit peu. Typiquement, dans aujourd'hui, le combat qu'on a face aux terroristes, moi, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas assez définies.
Par exemple,
sont pas assez bien définies. Quand on parle d'islam aujourd'hui, par exemple, on parle d'islam. Or, l'islam, pour la personne qui s'y intéresse, qui a visité des pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, en fait, on sait que c'est une myriade de religions, de courants. Et donc, s'arrêter là, déjà, c'est mal définir l'ennemi.
Mais
et
au-delà
ça, déjà,
du constat, s'engager au sein de la société civile, ça veut dire quoi concrètement? S'engager auprès de la DGSE, s'engager auprès de groupes privés, s'engager pour faire du social? Qu'est-ce que ça signifie?
Je pense que ça serait plutôt dans l'éducatif. Après, rien n'est arrêté, mais moi, ce serait plutôt commencer par des conférences auprès des jeunes, si possible, privilégier les collèges, lycées, pour déjà donner un peu de comment dire. Moi, ce qui m'intéresserait d'engager, c'est le thème de la responsabilité, qui est pour moi la meilleure parade qu'il y a au djihadisme aujourd'hui.
Vous avez combattu avec les armes, vous voulez combattre avec le savoir désormais, et le cœur.
C'est un peu ça, ça.
Est-ce que, au long de cette carrière, pendant ces 10 ans d'opération spéciale, est-ce que vous avez déjà eu peur et vous avez déjà vu la mort?
Alors, je pense que j'ai croisé, je ne sais pas si on peut dire que j'ai vu la mort, mais j'ai croisé son manteau quelques fois. Maintenant...
Il y a un moment en particulier
que
vous pouvez nous raconter?
Il y a un moment que j'évoque dans le livre, effectivement, où, en rétrospection, je me rends compte que j'ai eu peur, où j'ai eu un petit rire nerveux lorsque on était dans l'hélicoptère et puis la mission a changé et on avait grillé quelques cartouches déjà. Donc, on se disait, moi, en tout cas, je me disais, est-ce que ce coup-ci, c'est pas celle-là où l'un d'entre nous va y passer, où on va avoir un blessé grave? Et donc, ma carapace, un petit peu, a failli à ce moment-là. Et j'ai eu un petit rire nerveux. Ça s'est refermé et puis on est reparti. Mais une fois arrivé sur base, quand on décroche le pare-balles et le casque, j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que j'avais rigolé. En fait, je pense vraiment que j'ai eu peur à ce moment-là.
Merci. Merci infiniment pour avoir partagé avec nous votre témoignage. Louis Saillant, c'est donc votre nom d'emprunt pour ce livre qu'il faut lire. Chef de guerre, ça s'appelle, au cœur des opérations spéciales avec un commando marine. C'est aux éditions Mareuil Édition. Merci à vous.
Merci monsieur.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 19h28, 18h28. Dans quelques secondes, le rappel des titres et le débat des grandes voix. On parlera notamment de cette proposition choc d'interdire les contrôles d'identité. A tout de suite. 18h30, passé de 1 minute, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et l'épidémie recule, mais l'inquiétude demeure autour de la circulation des variants. À Dunkerque, où le britannique est très présent, les établissements scolaires ont adapté leurs horaires pour réduire les attroupements et atténuer les risques de propagation. En Moselle, face aux variants sud-africains, cette fois, le gouvernement va envoyer 30 000 doses de vaccins supplémentaires. La réouverture de 4 musées à Perpignan, décidée par son maire, Louis Alliot, est suspendue par la justice, pas conforme aux mesures sanitaires gouvernementales. Sans surprise, forte baisse du nombre des morts sur les routes en janvier dû au couvre-feu à 18h et au développement du télétravail. Le parquet général de Reims fait appel de la condamnation du beau-père et de la mère du petit Tony mort sous les coups en novembre 2016. 3 ans pour la mère, 20 pour le beau-père, peine moins sévère que celle réclamée par l'avocat général au cours du procès. En ski, Alexis Pinturo a signé le deuxième temps du Super G ce matin, première course du combiné alpin des championnats du monde. Il rate l'or pour 400e. Et puis Marseille tente de renouer le fil avec ses supporters. 15 jours après l'attaque de son centre d'entraînement, le club annonce mise en place d'une grande concertation avec tous les fans de l'OM début mars. Notre main est tendue, nous avons envie de travailler avec eux, déclare le directeur général de l'OM.
Eh bien ça, c'est de la promesse. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Allez, le coup bonne nouvelle du 18-20, c'est avec vous Anissa, parce que vous nous annoncez des bonnes nouvelles du côté du temps avec un avant-goût de printemps sur la moitié sud.
Oui, et en particulier dans le sud-ouest, demain où le soleil sera au rendez-vous toute la journée et les températures dépasseront la barre des 20 degrés, nous aurons 22 degrés à Tarbes demain après-midi, 21 à Pau, 20 degrés à Saint-Girons, 18 à Bordeaux. C'est au nord de la Loire en fait, dans le nord-ouest en particulier, sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. C'est là que nous aurons le passage d'une petite perturbation avec des nuages très présents et quelques petites averses. Et puis nous aurons également du vent sur les côtes. Au bord de la Méditerranée, du Languedoc jusqu'au Var, le ciel est couvert avec des entrées maritimes et un petit peu d'humidité. Puis notez que le vent du sud se lève et il souffle sur une grande partie du pays, le littoral atlantique, les côtes de la Manche ou encore la vallée du Rhône jusqu'à 60 km.
Et ben voilà, quand vous voulez, merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Quelques secondes de pub et on se retrouve avec les grandes voix tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien
Bugier. 18h34, le débat des grandes voix du lundi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Bonsoir,
bonsoir
Bruno.
Bonsoir Julien.
Et Laure Mandeville, grand reporter au Figaro. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir dans les grandes voix. Et on reparle donc ce soir de la situation sanitaire qui se dégrade à Dunkerque et en Moselle. Le nombre de contaminations explose, les variants progressent. La Moselle par exemple enregistre 40% de nouvelles contaminations aux variants sud-africains. Les élus locaux, mais aussi les parents d'élèves, dénoncent le manque de mesures complémentaires, notamment la fermeture des écoles. La préfecture a refusé et les habitants sur place, parfois, ne comprennent pas.
Dunkerque aurait dû être confiné. Il y a énormément de cas. Le maire a fait des démarches pour fermer les écoles et le préfet n'a pas accepté. Quand je vois qu'il y a des classes sur le Dunkerquois qui sont complètement fermées, et j'arrive pas à comprendre.
Voilà, Nicole Dunkerquoise dans le reportage de Maximilien Carlier. Alors, Bruno Jeuny, comment faut-il interpréter cette décision ? On reste sur la stratégie, non, pas de confinement, même régionalisé. C'est vrai que ça peut surprendre quand même, parce que la Moselle et le Dunkerquois ont quand même des seuils de contamination assez importants, y compris aux variants.
Oui, c'est vrai que ça paraît assez difficile à comprendre. Alors, il faut remonter un petit peu ce qui s'est passé ces dernières heures. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est quand même venu sur place. Il a discuté avec tous les acteurs locaux, les élus, le maire de Metz en tête, également les responsables des hôpitaux. J'ai entendu notamment un médecin s'exprimer disant que finalement, on pouvait faire sans le reconfinement de la Moselle. Et puis, on a entendu le ministre de l'Éducation qui explique que voilà, renforcement des protocoles sanitaires pour la Moselle. Oui. Mais pour l'instant, on applique toujours cette nouvelle doctrine qui est d'éviter au maximum le
au-delà du reconfinement, le vrai sujet, Charles Villeneuve, c'était quand même sur la fermeture des écoles. C'est vrai que les vacances scolaires, c'est dans une semaine pour cette zone-là. Et beaucoup de parents et d'élus locaux réclamaient une fermeture des écoles préventivement. Ça aurait pu se faire, sans trop d'encombre.
Oui, mais ça peut toujours se faire. Le seuil d'alerte, quand il est atteint, on a fermé à peu près 103, 104 lycées, écoles élémentaires en France. Il y a 665 ou 605, je ne sais plus, de classes fermées. On peut parfaitement les fermer aussi bien à Dunkerque qu'en Moselle. Et donc, c'est vrai que le taux de, notamment, je crois qu'il était de 1,4, il est à 1,5. Et à ce moment-là, ce taux zéro étant dépassé, on peut très bien prendre la décision. Il suffit que les trois, le trinôme de décision...
Vous mettez ça sur le compte de la cohérence gouvernementale.
Oui, absolument. Et ils sont dans la même ligne, de toute façon, du fait de ne pas donner le sentiment qu'ils vont, si vous voulez, juger d'une région par rapport à une autre, de fermer, par exemple, de confiner la Côte d'Or plutôt que les Bouches-du-Rhône, etc. Ils sont sur la même ligne stratégique. Moi, je ne trouve pas ça tellement incohérent.
Laure Mandeville, c'est un argument qui tient. C'est vrai qu'il se dit que ça exercerait, si confinement ou si fermeture des écoles il y avait dans ces deux coins-là de France et de région, ça exercerait d'une certaine manière une pression sur le gouvernement pour un reconfinement national. C'est ça que veut éviter l'exécutif ?
Peut-être. C'est vrai qu'on a vu depuis le début de cette crise, enfin moi je ne suis pas du tout spécialiste de cette question, donc c'est vraiment un avis très personnel. On a vu Jean-Michel Blanquer qui était extrêmement, sûr de son fait sur la question en fait, de la non-fermeture des écoles et invoquant d'ailleurs des chiffres non seulement français mais aussi israéliens, suédois, etc. pour dire en gros... non, il n'est absolument pas prouvé que l'Église soit un facteur en fait que l'école soit un facteur de propagation de la pandémie. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette idée qu'on ne veut pas affaiblir sa position, mais en même temps c'est vrai qu'il y a une autre injonction qui est celle quand même du terrain. Et c'est vrai que moi qui est un penchant girondin, je me demande aussi pourquoi il n'est pas possible, dans un cas précis, comme celui de la Moselle ou de Dunkerque, précisément, d'écouter ce que disent les maires et de prendre une semaine à l'avance peut-être des mesures quand elles s'imposent.
Ça va un peu à rebours de ce qui avait été dit à un moment. On se souvient en octobre que le Premier ministre Jean Castex avait mis l'accent sur la territorialisation, sur la négociation, le couple maire-préfet. Aujourd'hui, c'est plutôt préfet seul qui décide contre l'avis des élus locaux. Charles Villeneuve.
Je sais que j'ai vu le maire de Thionville, le maire de Metz, François Gourdidier, et puis aussi en Moselle, enfin pas seulement en Moselle, à Dunkerque, de se rapprocher du préfet ou de toute façon de se demander pourquoi le préfet prend cette décision. Mais le préfet, c'est le délégué général du gouvernement. Oui. Vous n'imaginez pas qu'il va prendre une décision sans appeler le ministre de la Santé, en l'occurrence, ou même l'Élysée, puisque de toute façon, c'est le chef de l'État qui a, avec une certaine audace, adopter cette stratégie de ne pas systématiquement reconfiner ou déconfiner.
Oui, mais on ne donne même pas le sentiment d'une forme de concertation. Là, je veux dire, c'est...
C'est rendu sur place quand même, Olivier Véran. Je pense qu'il a quand même cherché à discuter avec les acteurs locaux. C'est vrai que la décision samedi matin, samedi était plutôt surprenante, mais il y a quand même eu la volonté d'aller discuter avec les élus locaux. C'est vrai que le gouvernement, maintenant, veut clairement éviter une sorte de régime à la carte du nombre de cas de Covid par département. C'est vrai qu'il y a des départements, aujourd'hui on en parle peu, qui sont peu touchés par rapport aujourd'hui à la Moselle ou d'autres départements extrêmement touchés. Mais à part un protocole renforcé dans les écoles, il n'y a pas grand-chose.
Il y a quelque chose qui fonctionne quand même. C'est que pour l'instant, la stratégie, il faut le redire, du non-confinement, elle tient plutôt la route. Je regardais les nombres de malades, par exemple, en Réa, qui est passé pour la première fois depuis 5 jours sous la barre des 3000 cas. Le nombre de contaminations qui est passé sous la barre des 18 000 par jour. Ça continue de baisser. Alors, est-ce que ça va bondir, comme le prédisent certains épidémiologistes? Ça, on verra dans les semaines qui viennent, puisqu'on nous avait dit début mars, ça va bondir, on sera submergé. Pour l'instant, ça tient, ça fonctionne.
Mais bien sûr, mais en plus, on est en train de s'apercevoir, en regardant de plus près les statistiques anglaises, notamment, que les variants, de toute façon, sont plus contagieux, mais moins létals.
On avait dit l'inverse il y a quelques semaines.
Oui, mais
ce n'est
pas le cas.
Encore.
Même le Sud-Africain.
Oui.
Et vraisemblablement, enfin, d'après les études, moi, je ne suis que... évidemment, le rapporteur des études de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu regarder, montre de toute façon que les vaccins, notamment le Pfizer et le Moderna, couvrent les variants.
Oui.
Bon, donc, alors évidemment, en France, on n'est pas aussi assuré qu'en Angleterre, ils sont à 15 millions de vaccins et nous sommes à peu près, on arrive à 3 millions. Mais il y a aussi autre chose par rapport justement aux classes, à l'école, c'est que il suffit qu'un seul élève dans une classe et de toute façon soit contaminé pour fermer la classe.
Oui.
Donc, et ça, c'est de toute façon aussi bien l'Agence régionale de santé, l'académie de la région et bien évidemment le directeur de l'établissement. Alors, ils appliquent, c'est un trinôme qui décide, ils appliquent tout de suite la fermeture.
Sauf qu'on est revenu là-dessus, Charles Villeneuve, ça vous a peut-être échappé, est revenu là-dessus.
Une ou deux fois.
On a assoupli le protocole sanitaire, c'est Jean-Michel Blanquer qui l'a annoncé, parce que, en fait, c'est tout le paradoxe. Plus les variants sont importants, moins on veut fermer de classe quand même pour ne pas pénaliser les parents et l'économie. Ça a été légèrement assoupli. Laure Mandeville.
Oui, en fait, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'on est pris finalement entre, comme toujours depuis le début de cette incroyable crise, entre des informations contradictoires, des données contradictoires, des statistiques contradictoires, des études. Mmh. Et je lisais par exemple, en regardant un peu ce qui se passe à l'étranger...
On apprend des choses quand même au fil
de l'eau. On apprend des choses, mais ça reste quand même un terrain, je dirais, plus qu'instable et plus qu'incertain.
Oui.
Et par exemple, je voyais par exemple que l'université du Danemark a mené une étude en fait, au Danemark entre les régions, parce que eux, pour le coup, ils différencient par région, entre des régions qui ont été... très confinés et d'autres qui ne l'ont pas été. Ils se sont aperçus que finalement, au bout du compte, il n'y avait pas de différence significative dans les résultats en termes de propagation de la maladie et de résultats probants. Même chose à Stanford University qui a étudié 8 nations en fait, qui se sont confinées ou non à travers le monde et qui donne elle aussi des chiffres pour dire que finalement, c'est pas du tout probant que ceux qui se sont confinés ont mieux réussi en termes de statistiques sur le nombre total des morts. Et si vous mettez ça en balance avec ce que ce qui est dit aussi bien en France, par exemple, qu'aux États-Unis, sur le fait que ce confinement est absolument catastrophique sur le plan de la santé mentale, du nombre de suicides, des violences familiales, etc. C'est vrai qu'il y a aussi, évidemment, beaucoup d'éléments qui plaident pour qu'on laisse quand même au maximum le pays ouvert.
Bien. Donc, tout ça est quand même contradictoire. Merci pour nous avoir fait partager cette étude fort intéressante. C'est vrai que je l'avais aperçue dans mes lectures du matin. On reste ensemble, 18h43, on se retrouve dans quelques secondes. On change tout à fait de sujet, on parlera de la proposition choc de la Défenseure des droits qui propose l'expérimentation de zones sans contrôle d'identité. Ça fait pas mal de bruit aujourd'hui, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h46, la suite des Grandes Voix du lundi avec toujours Charles Villeneuve, Bruno Jeudy de Paris Match et Laure Mandeville, grand reporter au Figaro. On va dire un mot de l'une des polémiques du jour, la proposition de Claire Hédon, qui est la défenseuse des droits et qui propose de tester des zones sans contrôle d'identité pour lutter, dit-elle, contre les discriminations au faciès qui a provoqué la colère de certains syndicats de police et d'une partie de la droite. Claire Hédon, on l'écoute.
Quand vous êtes un jeune homme, que vous êtes perçu comme noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de risques d'être contrôlé. Il faut que dans certains quartiers, il y ait un récépissé à chaque contrôle d'identité. Et puis peut-être un autre endroit où on essaye pas de contrôle d'identité.
Voilà, pas de contrôle d'identité, donc ça a fait évidemment réagir les syndicats de police et une partie de la droite. Ça rejoint quand même d'une certaine manière ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron lors de sa précédente interview. Il avait dit aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé, on est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable. Et j'ajoute que Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, avait dit à peu près la même chose. Ces contrôles, avait-elle dit, ça ne peut pas être le mode de fonctionnement de la police. Il faut qu'on ait des garanties là-dessus. Votre avis sur ce débat et ces propositions, Bruno Jeudy ?
Mais est-ce que pour autant ça justifie le fait qu'on supprime les contrôles ? Qu'on s'interroge sur la façon dont on s'est contrôlé sur... Mais là, elle va plus loin, la défenseure des droits. Elle prône la zone de non-contrôle. Ouais. Donc après la zone de non-droit, en quelque sorte, on installerait les zones de non-contrôle.
Non-contrôle d'identité.
Non-contrôle d'identité.
Il ne s'agit pas de ne pas interpeller quelqu'un qui a commis un délit.
Je crois que là, on marche un peu sur la tête. C'est-à-dire que tous les territoires de la République doivent être contrôlés de manière égale. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ça ne tient pas debout.
Bien.
Alors, moi, en fait, je suis abasourdi d'entendre de tels propos, je dois dire. Mais ça me rappelle, en fait, ce qui s'est un peu passé aux États-Unis, où, si vous voulez, à partir du moment où on a mis en cause les flics, les policiers, pour avoir la main trop lourde, pour toutes les violences policières qu'il y avait eu, etc., vous avez assisté, par exemple à New York, à une forme de mise en retrait délibérée des officiers de police qui étaient tellement, si vous voulez, sur la défensive, qu'ils ont commencé, notamment au cours de l'été, au moment où il y a eu toutes ces émeutes, vous savez, au cours de l'été, où ils n'ont plus fait le travail de contrôle, de quadrillage du terrain dans les quartiers, etc. Et il y a eu un nombre de violences absolument qui est monté de manière exponentielle, et à tel point que les populations de ces quartiers, qui sont d'ailleurs souvent des populations des minorités, se sont plaintes, et que vous avez eu une migration massive, en fait, de populations, des classes populaires et moyennes, hors de New York, vers des États comme la Pennsylvanie ou le New Jersey, parce qu'en fait, ça devenait une situation totalement insupportable.
Mais vous dites le contrôle au faciès, c'est un faux sujet, ou vous dites la proposition de la défenseure des droits est une mauvaise proposition et un faux sujet ?
Non, mais je dis que sa proposition me paraît complètement complètement farfelue, effectivement.
Charles Villeneuve.
Moi, je pense que tant qu'on y est, je ne comprends pas pourquoi, finalement, on n'est pas allé au bout de sa logique. Le bout de sa logique, c'est de désarmer la police. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer. On a importé la cancel culture des États-Unis, le woke, etc. On va importer de toute façon ce qui s'est passé parce que je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur se rend compte. Vraiment, j'ai discuté avec plusieurs.
Il y a des policiers désarmés. Hein. Ça s'appelle les bobbies en Angleterre. Et ils encadrent des manifestations.
Je suis désolé.
Et ils sont désarmés.
Non, vous n'êtes pas tout à fait très bien informé à ce moment-là.
Mais j'ai habité en Angleterre pendant quelques années.
Vous avez une partie de la police. Vous avez une partie de la police, celle qui intervient sur intervention de toute façon un peu musclée, qui est complètement armée.
Oui.
Je peux vous donner d'ailleurs, si vous voulez, le type d'armement qu'ils ont.
L'équivalent de notre gardien de la paix en Angleterre n'est pas armé.
Non, mais attendez. c'est, ils non, sont de plus en plus...
Je vous dis simplement que ça existe,
mais,
c'est tout.
Mais si, quand vous faites cette remarque, manifestement, vous êtes pour.
Mais non, je ne suis pas pour.
De la police.
Je vous dis que ça existe.
Mais c'est pas grave.
Je vous dis que ça existe.
C'est pas...
Non, je ne suis pas du tout pour.
Tout arrive,
je vous dis
tout arrive. Existe. Vous savez, tout arrive. Il est arrivé tellement de choses ces derniers temps, que... de toute façon. Mais je ne pense pas du tout que la police anglaise s'arme de plus en plus, notamment après les attentats à proximité du Parlement britannique, etc., et que ça a beaucoup changé, si vous voulez, l'équipement, notamment de la police anglaise, et la manière d'intervenir même, puisqu'ils sont équipés de voitures tout à fait spéciales, extrêmement rapides, pour être plus rapidement sur les lieux. Non, mais j'ironise, évidemment, quand je dis désarmer la police, mais il y a le Beauvau de la sécurité en ce moment. Bon, et vous savez...
Que le timing n'est pas très bon, c'est juste ce que vous voulez dire.
J'ai couvert ce type d'événement pendant des années, très longtemps, notamment ici, à Europe 1. Ils sont dans un état, les policiers, et d'ailleurs, ils peuvent s'en prendre aussi à eux-mêmes, bien sûr, compte tenu que quand on entend, si vous voulez, l'interview du président de la République, qui finalement a ouvert la porte à ce genre de déduction, très largement, vous l'avez dit d'ailleurs dans la présentation du sujet, mais ils sont dans un état moral qui équivaut à zéro ou pas loin.
Oui.
Bon. Et je ne sais pas ce qui va sortir de ce Beauvau de la sécurité. Autre chose, sans doute, que, si vous voulez, une communication qui va permettre au président de la République de rassurer les Français au moment de sa campagne présidentielle. Sans doute. Mais je demande à voir, finalement, ce qui va sortir.
Fausse bonne idée. Tout le monde est d'accord. Le Sahel, maintenant, je voudrais qu'on en parle. Le retrait, redéploiement, comment ajuster l'opération Barkhane? Les présidents du G5 Sahel, et Emmanuel Macron s'entretiennent aujourd'hui pour faire le point sur la lutte antiterroriste dans la région où la France intervient depuis 2013. Plus de 5000 soldats français sont déployés sur zone. Elle a déjà coûté la vie à 57 militaires français. Alors, certains envisagent un retrait des troupes. Et en janvier dernier, au micro européen de Jean-Rémy Baudeau, Emmanuel Macron disait ceci.
Au Sahel, grâce à un effort accru dans la bande sahélo-saharienne, les résultats sont là. Les résultats obtenus par nos forces au Sahel, conjugués à l'intervention plus importante de nos partenaires européens, vont nous permettre d'ajuster notre effort.
Alors, faut-il ajuster l'opération Barkhane? Un peu plus de 5000 soldats sont aujourd'hui présents sur zone, dans la bande Sahel, et principalement évidemment au Mali, car cette guerre, on a des victoires, on a des succès, mais on est en partie aussi en train de la perdre. Et notamment, j'en parlais avec mon invité tout à l'heure, la bataille des cœurs, car il y a un sentiment anti-français qui monte maintenant très fort au Sahel.
Oui, c'est vrai que j'écoutais aussi votre invité, Louis Saillant, là, ce jeune lieutenant de vaisseau, et c'est vrai que c'était pour moi assez fascinant parce que comme j'ai couvert aux États-Unis pendant 8 ans, comme vous savez, la présidence Obama, et donc j'ai vu aussi tous les atermoiements, tous les questionnements des militaires américains en Afghanistan au cours de cette période, avec l'arrivée d'Obama qui, un peu comme Emmanuel Macron, décrète quand il arrive, tout en hésitant beaucoup, un surge, parce que les militaires lui disent il faut y aller, il faut qu'on mette plus d'hommes, il faut qu'on gagne la bataille des cœurs, comme votre lieutenant de vaisseau, la même chose. Et donc, ils ont investi 30 000 hommes en plus. Et au bout du compte, ils ont eu des succès tactiques militaires, exactement comme les Français ont aujourd'hui au Sahel. Mais ils n'ont pas résolu le problème politique de l'Afghanistan sur un territoire absolument gigantesque où il faut à la fois effectivement poursuivre un ennemi qui est réel et effectivement que nous combattons pour de bonnes raisons. Parce que c'est vrai que si les Français n'étaient pas allés au Sahel en 2013, on aurait eu la création d'un califat islamique au cœur du Sahel qui aurait menacé l'Europe et menacé aussi la France. Avec des problèmes de migration probables, etc. Mais c'est vrai que le gros problème aujourd'hui, c'est la question stratégique politique. Comment on fait pour aider ces pays ne pas être des États faillis qui, quelle que soit l'aide militaire qu'on leur apporte, seront incapables d'apporter des réponses politiques à ces populations qui se radicalisent.
Quel est le bon curseur, Bruno Jeudy? 2000 hommes, 3000 hommes, un général qui est aujourd'hui à la retraite était venu à ce même micro pour dire l'opération devrait être allégée avec simplement des contingents de forces spéciales qui tapent et interviennent de façon sporadique sur des cibles prioritaires. Est-ce qu'on a vocation à laisser Si vous êtes allé à Gao, vous connaissez la constitution de cette base. C'est une ville dans la ville. Une ville dans la ville.
Non, mais le président a lâché le mot, hein, ajusté. Donc c'était déjà un mot assez important. On voit bien que bon, il va revenir sur ce qu'il a, les hommes qu'il a mis l'année dernière, 600 de plus. Alors après, quel est le bon niveau? Je suis incapable de vous dire. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron sait qu'il doit commencer à mettre le débat sur la table. Une campagne présidentielle l'année prochaine.
Et puis il y a un opinion publique.
Ça peut encore mal se passer. Il y a un opinion publique pour nos soldats qui sont là-bas. Et il y a une opinion qui est en train de se retourner. Donc tout ça mélangé fait que lui, il est obligé de commencer à en tirer des leçons, sinon à préparer l'opinion, mais aussi à mettre la pression sur les chefs d'État africains, ce que disait à l'instant Laure, parce qu'au fond, c'est la question lancinante depuis le début. Hein.
Compliqué comme sujet, Charles Villeneuve, de trouver le bon curseur pour rester sur place et en même temps opérer un retrait, parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment, évidemment.
Moi, je crois que depuis son arrivée, de toute façon, à l'Élysée, le président de la République sait qu'il va quitter le Sahel et que c'est dans son idée depuis le début. Simplement, on parle d'ajustement maintenant. Quand une guerre dure depuis 8 ans, ça devient une guerre d'usure. En plus, elle se déroule dans des pays, si vous voulez, dont l'armée, notamment l'armée du Mali, qui a été équipée, qui a été formée, qui reçoit des équipements français, en réalité, est devenue une armée de prédateurs, notamment par rapport à la population civile. Une armée qui vit de prébendes et qui a d'ailleurs fait un coup d'État dernièrement et on a vu son inutilité. Or, il n'y a plus de villes à libérer et seulement des hommes à tuer. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Les villes qui ont été libérées, Gao, Tombouctou, Kidal, tout ça a été fait. Bon, maintenant, vous êtes rentré, et c'est pour ça que le général auquel vous faisiez allusion, c'est parce que grâce aux drones armés et une excellente organisation du renseignement, 80% des opérations se déroulent non plus comme auparavant, si vous voulez, avec les commandos marines ou les commandos parachutistes ou les commandos de l'air, mais se déroule par l'intermédiaire, justement, d'interventions aériennes, et notamment des drones armés. Alors, au début, les Français étaient sur le fil, si vous voulez, de la victoire, en quelque sorte. Oui. Là, ils sont sur le fil du doute, maintenant, les hommes sur place.
Mais il faut retirer
les troupes, c'est la raison pour laquelle le commando marine vous a dit, de toute façon, et quels peuvent être les résultats finaux. Or, il n'y a pas de résultats, d'autant plus que c'est vrai que petit à petit, il y a une impopularité des soldats. Et ce qui est normal, parce que le soldat, lui, il n'est pas là pour construire des villes ou pour améliorer l'économie. Et donc, on le prend en antipathie.
Bien, merci Charles. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du lundi. On se retrouve dans quelques instants avec le journal et le Club des idées. À tout de suite.